Chers amis, nous nous réjouissons de vous retrouver pour la 19e partie de notre série d'émissions intitulée « Les grands enseignements cosmiques de Jésus de Nazareth à ses apôtres et disciples qui pouvaient les comprendre ». Ce titre suscite en chacun des pensées ou des interrogations différentes. En entendant le nom de Jésus de Nazareth, vous vous demandez peut-être comment il est possible d'avoir, aujourd'hui, connaissance de ce qu'il a enseigné il y a 2000 ans dans le cercle restreint de ses disciples. Afin que les êtres humains puissent prendre connaissance des enseignements du Christ, Dieu, que nous pourrions également appeler l'Esprit libre, l'Esprit universel de l'infini, a pris une interprète qui traduit le langage céleste en langage humain. Cette interprète, c'est Gabriel, que des personnes de toutes les cultures du monde entier connaissent aujourd'hui comme étant la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque. Ou peut-être avez-vous été touché par les mots « grands enseignements cosmiques » et vous vous demandez ce que c'est. Il s'agit d'enseignements qui nous aident à voir les choses plus en profondeur et à découvrir notre vie véritable, éternelle. Au cours d'un cycle d'enseignements, Gabriel a donné des explications détaillées sur les enseignements de l'esprit libre et y a ajouté de nombreux exercices concrets. Il s'agit d'enseignements pratiques que toute personne qui le souhaite, quel que soit son âge ou sa culture, peut appliquer au quotidien et faire ainsi ses propres expériences. Nous qui faisons la lecture de ces enseignements, nous y trouvons également de nombreuses tâches avec lesquelles nous travaillons et apprenons. Les grands enseignements cosmiques de Jésus de Nazareth et les explications de Gabriel ont été édités dans un ouvrage. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture.
Dans ces grands enseignements cosmiques, le Christ dit, je cite, « Tes yeux sont la lumière de ton âme. Tu ne vois que toi, tu n'entends que toi. Avec tes sentiments, sensations, pensées, paroles et actes, tu dessines l'image de ton âme. L'image de ton âme est ta conscience. Chaque conscience perçoit ce qui lui correspond. C'est ce qui entre en elle. C'est ce qu'elle est. Ce qu'elle rayonne et transmet en même temps.
Gabriel explique ce qui suit. Tes yeux sont la lumière de ton âme. Ce qui regarde à travers nous, c'est soit la lumière, soit l'ombre. Notre âme voit à travers nos yeux. C'est à travers eux qu'elle perçoit le monde dans lequel elle est incarnée. L'âme et l'homme voient leur entourage selon leur degré de lumière ou d'ombre, et l'homme réagit en conséquence. Nous voyons, entendons et remarquons ce que nos sens nous signalent, et nous réagissons en fonction de ce que nous percevons. Selon le degré de lumière ou d'ombre de notre âme, nos réactions sont soit en accord avec les lois de Dieu, soit en désaccord. Entre les deux, il n'y a rien.
Gabriel poursuit. Nous voyons et nous entendons en fonction de la nature de notre âme. Aussi longtemps que notre âme est obscurcie, qu'elle voit à travers nos yeux, entend à travers notre ouïe et agit à travers nos autres sens, selon la limitation de notre moi humain, nous voyons et entendons ce que nous sommes nous-mêmes. Tout est conscience. Nous percevons notre environnement en fonction de l'état actuel de notre âme qui tend soit vers la lumière, soit vers l'ombre. C'est ce qui détermine notre perception et nos réactions. Nous exprimons ce que nous voyons et entendons. Ce que nous exprimons correspond-il à la réalité ou à une illusion? Si c'est la lumière de l'âme qui regarde à travers nos yeux, alors nous exprimons la vérité, la loi. Par contre, si ce sont les ombres de l'âme, nos correspondances qui regardent à travers nos yeux, nous ne voyons que ce qui correspond à notre moi humain, car en dehors de cela, rien d'autre n'existe pour nous. Autrement dit, nous vivons soit dans la réalité, l'existence pure, soit dans l'irréalité, l'apparence trompeuse.
Gabriel ajoute ce qui suit. En d'autres termes, nous émettons ce que nous sommes, l'existence véritable ou l'illusion. Ce que nous émettons revient également en nous. Nous ne sommes pas en mesure de saisir autre chose. C'est ce qui constitue notre conscience et nous ne percevons rien d'autre en dehors de cela. C'est pourquoi il nous est dit « Développe-toi sur le chemin de l'évolution spirituelle ». Chaque jour nous est offert pour que nous mettions en ordre les aspects humains que nous reconnaissons au cours de la journée. À chaque fois que nous mettons en ordre nos aspects pécheurs, notre conscience s'élargit. Nous voyons plus et davantage en profondeur. Nous entendons plus et cernons les causes plus profondes de ce qui est lié à la matière. De la sorte, nous saisissons également les interactions plus profondes qui existent entre la lumière et l'ombre. Par la transformation de nos ombres en lumière, nous nous rapprochons progressivement de l'origine de notre vie, Dieu, de notre héritage divin, notre existence véritable, l'existence de l'être que nous sommes en Dieu.
Le Christ poursuit son enseignement. Ton prochain peut-il voir exactement l'image que tu as dessinée à travers ton monde de sensations et de pensées, à travers tes paroles et tes actes? Chacun voit ce que tu lui décris de façon différente, en fonction des images de sa propre conscience. Chacun voit également son environnement de façon différente, à nouveau en fonction des images présentes dans sa conscience et qu'il a lui-même créées. Il en est de même des bruits qui se manifestent dans ta vie, faites d'images. Chacun les entend de façon différente. Gabriel éclaire pour nous le contenu de ses paroles. Nous pouvons en faire facilement l'expérience en famille, dans notre communauté d'habitation ou avec nos amis. Prenons par exemple une image ou une photo que chacun regarde et observe. Chacun note ensuite ce qu'il a perçu dans cette image, également ses sensations et ses sentiments. Nous pourrons constater que chacun voit et ressent autre chose.
Pour une meilleure compréhension, Gabriel nous donne d'autres aides. Elle explique ce qui suit. Des vacances ou un voyage fait en commun peuvent également nous montrer, par la suite, que chacun a ressenti différemment son séjour et vu différemment le paysage qui s'offrait à lui. L'expérience est facile à réaliser. Notons tout simplement ce que chacun a perçu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti et pensé. Cette expérience nous montrera clairement que chacun a remarqué d'autres choses, que chacun a été touché par des aspects différents. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'aucun de nous n'a la même conscience. Nous percevons notre environnement en fonction de notre conscience, de la lumière et des ombres de notre âme. Les bruits font également résonner en chacun des aspects de son monde de pensée composés de couleurs, de formes et de sons. Faisons à nouveau une expérience. Nous écoutons la même mélodie. Que ressent et pense chacun? Comment réagit chacun de nous en entendant cette même mélodie? Chacun perçoit, en fonction de sa conscience, des sonorités différentes, qui déclenchent, elles aussi, différents sentiments, sensations et pensées.
Le Christ poursuit, je cite, « Si tu attires l'attention de ton prochain sur certains sons, sur certaines couleurs ou formes, quelles que soient les descriptions que tu lui fourniras, il percevra ses sons ou il verra ses couleurs et ses formes autrement que toi. Chers amis, que veulent nous dire ces paroles? Que signifient-elles pour notre vie? Gabriel nous donne les explications suivantes. En entendant cet aspect de la loi, nous devrions nous interroger sur la nature de notre vie terrestre. S'agit-elle de la vie éternelle, de la vérité, ou bien est-ce une illusion? Avec nos mots, nous avons créé des concepts. Par exemple, nous considérons la couleur rouge comme telle, parce que chacun affirme ce concept. Cependant, le contenu, la conscience de ce qui est désigné par la couleur rouge, est-il vraiment rouge? Ou bien avons-nous seulement donné un nom à cette couleur? Comment cette couleur est-elle appelée dans d'autres cultures? Lorsqu'une personne crée une notion, les autres l'imitent. Autrement dit, les concepts, les notions de notre langage sont un accord superficiel. Une personne choisit le terme de « rouge » et d'autres reprennent ce concept et croient qu'il s'agit de la réalité. Cependant, du point de vue de la loi de Dieu, ce n'est pas nécessairement le cas. Il en est de même pour les formes. Nous affirmons que certains termes désignent telle ou telle forme et, parce que nous l'affirmons, nous croyons qu'il en est ainsi. Cependant, du point de vue de la loi de Dieu, ce n'est pas forcément le cas.
Gabriel poursuit ses explications. Nous créons un terme pour désigner un contenu, une conscience, parce que c'est ainsi que nous le comprenons momentanément et pas autrement. Nous le désignons ainsi parce que nous le voyons ainsi, et nous le voyons ainsi parce que nous, notre âme, notre nature humaine, sommes faits ainsi. En cela, nous pouvons reconnaître que notre monde est relatif et non absolu. Nous vivons dans un monde de concepts, un monde d'illusions, dans le monde de nos programmes. Nous comprenons uniquement ce que nous avons enregistré en nous. À travers nos concepts, nous définissons nous-mêmes notre réalité illusoire. Nous disons, par exemple, que nous sommes malades. La maladie est pour nous une notion qui correspond à un état. Selon la loi de Dieu, la maladie n'est que l'écoulement d'une disharmonie. Or, pour nous, le mot, le concept « maladie » est lié à de nombreux autres concepts qui, en relation avec celui de maladie, ont été programmés dans notre cerveau. En employant ce mot, nous renforçons ce que nous appelons notre maladie. Nous nous lions à cette notion, à ce programme.
Les explications de Gabriel nous en apprennent plus encore sur ces interactions. Poursuivons la lecture. Lorsque l'écoulement d'une disharmonie est en cours, nous l'appelons maladie. Nous estampillons cette disharmonie de la notion de maladie. Nous affirmons cette notion et, ce faisant, nous la renforçons et lui donnons réalité dans notre corps. Nous parlons alors de notre maladie. En réalité, il s'agirait de faire s'écouler une disharmonie intérieure, un mouvement dans lequel la force positive est déjà en action pour agir de manière curative. Cependant, par le concept « maladie », nous lions à notre corps la disharmonie qui, en fait, souhaite uniquement s'écouler, être évacuée. Dans la loi éternelle de Dieu, la maladie n'existe pas, car la loi de Dieu ne connaît pas de concepts qui sont illusions. Elle connaît uniquement la vérité, qui est la réalité. L'Esprit de Dieu est vérité, il n'est pas illusion. Tous les êtres purs sont dans la vérité et se comprennent les uns les autres, car ils vivent la seule loi qui soit, la loi absolue, la loi de Dieu.
Gabriel poursuit en disant « Nous vivons notre loi personnelle, nos aspects personnels du moi, en considérant qu'ils constituent notre personnalité. Toutefois, pour trouver la vérité, Il nous faut nous élever au-dessus de notre personnalité, au-dessus de la loi de notre moi humain. Selon les concepts humains, nous sommes une personne. Selon la loi de Dieu, notre être éternel est loi de Dieu ayant pris forme. Tant que nous vivons dans notre loi personnelle, nos conversations restent des dialogues de sourds, pour ainsi dire. Chacun s'exprime dans sa langue maternelle, mais en réalité, chacun parle sa propre langue, car il dépose dans ses mots un point de vue, un contenu et une conscience tout à fait différents de ceux de son prochain. Ce que nous déposons dans nos paroles correspond à notre conscience. Nous comprenons mieux maintenant ce qu'est la limitation humaine. Cette limitation, cette étroitesse de la conscience, correspond à la limitation de notre moi humain, à notre manière personnelle de penser, de ressentir, ainsi qu'à notre volonté propre. Tant que nous nous référons à nos modèles de pensée, à nos concepts, tant que nous nous référons à nos aspects et programmes humains, nous vivons dans la limitation. Et la limitation est illusion.
Chers amis, c'est la raison pour laquelle Gabriel nous encourage par ses paroles. Sortons de l'étroitesse du moi humain, sortons de la limitation, de la duperie et de l'illusion. Il nous faut regarder plus en profondeur, entendre ce qu'il y a à l'intérieur des mots, voir à travers les apparences extérieures pour découvrir au plus profond d'elles l'existence pure, éternelle, le positif, le divin. Notre vie devient alors intéressante. Alors seulement, nous ressentons ce que signifie d'une part la limitation, d'autre part vivre sans limitation. En chacun de nous se trouve la conscience illimitée, le divin. L'illimité en nous, c'est toute chose, voit à travers toute chose et perçoit en toute chose ce qui est en accord avec la loi de Dieu. C'est cela notre vie dans l'existence éternelle. C'est là que nous conduit notre chemin. Chaque jour, il nous faut décider entre la lumière et l'obscurité. Le chemin qui mène à la lumière est le chemin de l'élargissement de la conscience.
Dans son enseignement, le Christ dit « Il est possible que ton prochain perçoive plus de son que toi, ou davantage de nuances de couleur, ou encore que les formes lui apparaissent différentes de celles que tu vois. Qui peut prouver à quelqu'un qu'il perçoit le son juste, qu'il voit la couleur ou la forme exacte ? Personne, car chacun voit, perçoit, ressent et pense de façon différente. »
Écoutons à ce propos les explications de Gabriel. Si nous croyons à ce que dit le Seigneur, une question s'impose à nous. Qui a raison ? Nombreux sont ceux qui disent « c'est moi qui ai raison ». Pourtant, chacun voit et entend autre chose. L'un perçoit plus de son que l'autre, et l'autre, de son côté, voit d'autres couleurs que le premier. Lequel a raison ? Pouvons-nous prouver que nous entendons plus de sons que notre prochain ? Pouvons-nous prouver que la couleur rouge est vraiment rouge ? Que la couleur jaune est vraiment jaune ? Pouvons-nous le prouver ? Nous pouvons en apporter la preuve sur la base de nos concepts, car nous avons le concept rouge dans notre conscient. Reste à savoir si ce concept correspond vraiment à la vibration de cette couleur, selon la loi éternelle. Nous voyons donc que tous les concepts sont relatifs et cette relativité des concepts n'est en aucun cas la vérité.
Nous poursuivons la lecture de l'enseignement du Christ de Dieu. Le Christ dit, je cite, « Une personne à qui on a volé quelque chose dit généralement, « Je peux le prouver. » Peut-elle vraiment prouver qu'elle a été volée ? Peut-être qu'on lui a seulement repris ce qu'elle avait elle-même dérobé à son prochain lors d'une vie antérieure. La personne qui a été volée, de même que celle qui a volé, ont toutes deux enfreint la loi de Dieu, car ni l'une ni l'autre n'aurait dû dérober quelque chose à l'autre, se l'approprier. Tu dis que tu peux apporter la preuve que ton prochain a menti à ton sujet. Ton prochain a-t-il vraiment menti ou bien n'a-t-il fait que dire ce qui se trouve dans ton monde de sentiments et de pensées, ce qu'en fin de compte, tu es vraiment. Vois, toute médaille a deux faces, sauf si tu es divin, car tu es alors la vérité et tu vis dans la conscience universelle. S'il en est ainsi, tu ne t'énerveras pas et tu exprimeras la vérité. Tu clarifieras ce qui doit l'être et tu t'en tiendras là.
Chers amis, nous voyons donc que beaucoup de choses ne sont pas telles qu'elles nous paraissent être. Pour nous permettre de mieux comprendre encore, Gabriel explique ce qui suit. Souvent, notre vision des choses se limite à la situation momentanée et nous disons par exemple « Je n'ai plus mon porte-monnaie et mon prochain a mon porte-monnaie, donc il est évident qu'il me l'a volé. » Celui qui connaît la loi de cause à effet ne se contentera pas de cette vision superficielle des choses. Si quelque chose nous est volé, il s'agit là de la récolte de ce que nous avons semé, d'une cause que nous avons engendrée. Si nous appliquons la loi « ce que l'homme sème, il le récoltera » à notre propre vie, le bouillonnement de nos sentiments nous montrera quelle pourrait être cette cause. En effet, le bouillonnement de notre esprit est déclenché par des sensations, sentiments et pensées qui sont des aspects de ce que nous avons un jour semé.
Nous poursuivons la lecture des explications de Gabriel. Tout dépend maintenant de nous. Voulons-nous nous examiner, nous repentir des aspects que nous avons semés et les mettre en ordre, ou bien ignorons-nous ce bouillonnement de nos sentiments? Dans ce dernier cas, nous continuerons à semer. Ces événements de notre vie sont de petits aspects de la loi de cause à effet. Cette dernière agit de la même manière à une échelle plus grande. La loi de cause à effet s'applique également aux fautes collectives lorsque, par exemple, 1 million de personnes sont impliquées dans un événement. Chacun a sa part de responsabilité dans cette faute collective. Celui qui, parce qu'il s'est totalement tourné vers le monde et ses attraits, n'entend pas les impulsions de grâce, les mises en garde envoyées par Dieu, devra subir les conséquences de sa part de faute, éventuellement engendrées au cours d'une vie antérieure.
Gabriel explique « Ces causes, engendrées sur la terre, agissent comme des aimants. Le cas échéant, elles nous attirent à nouveau et nous nous incarnons alors dans un pays où ces causes engendrent leurs effets. Par exemple, sous la forme d'une guerre, de catastrophes naturelles ou autres. Selon la loi des semailles et des récoltes, nous subissons uniquement les conséquences de ce que nous avons nous-mêmes causé et pas une once de plus. C'est en cela que consiste la justice de la loi de cause à effet, qui est différente du droit tel qu'il est compris dans ce monde. Si nous bataillons en affirmant que c'est notre prochain qui porte la faute, nous essayons d'imposer ce que nous pensons être notre droit. En agissant ainsi, nous nous fermons à la possibilité d'une prise de conscience sur nous-mêmes. Notre faute n'est alors pas effacée, peut-être même grandit-elle, et, un jour ou l'autre, si nous ne changeons pas à temps notre manière de voir les choses, nous en subirons les effets.
Le Christ poursuit son enseignement en disant, je cite, « Celui qui critique quelque chose chez son prochain, quelque chose qui l'irrite depuis longtemps déjà, peut être sûr d'avoir le même défaut. Selon le principe « émettre et recevoir », en critiquant ton prochain, tu t'exposes aux forces que tu as appelées à travers tes propres sentiments, sensations, pensées et paroles. Aussi, apprends à te reconnaître et transforme-toi afin que, transformé, tu puisses entrer dans les demeures du salut. Gabriel explique comment ces paroles peuvent devenir des aides concrètes pour notre vie. Ces paroles du Christ se rapportent à la loi de la correspondance qui est un aspect de la loi causale. Nous pouvons nous reconnaître dans le miroir de notre prochain lorsque nous le dévalorisons, l'accusons, le jugeons, lui reprochons des fautes en nous énervant à son sujet. Celui qui met à profit ces occasions pour en chercher les causes en lui-même et pour les mettre en ordre, se libère de ses charges. Il chemine et se transforme dans la lumière du Christ. Il devient libre.
Le Christ, notre frère divin et ami, aimerait que nous nous trouvions nous-mêmes et nous y aide de nombreuses manières. Dans ses grands enseignements cosmiques, il nous dit « Voici un exercice qui vous aidera à mieux vous connaître vous-même. Plusieurs personnes contemplent ensemble un même paysage. Chacun y voit des aspects différents. Ce que l'un voit, c'est son image et non celle de son prochain. Si un petit animal traverse soudainement le paysage, tous les participants le remarqueront, mais chacun le verra et le ressentira différemment. La perception de l'un fait partie de son image personnelle, mais pas de celle de son prochain. L'image propre à chacune de ces personnes est l'image correspondant à sa conscience. La manière dont une personne voit et entend, ressent et pense, correspond à sa conscience actuelle, conscience avec laquelle elle perçoit l'image, voit les couleurs et les formes et entend les sons. Qui peut prouver que le petit animal était bien tel qu'il l'a perçu? Tout est relatif, car chacun voit, entend, sent, goûte et touche selon sa propre perception des choses, selon le rayonnement actuel de sa conscience. Chacun ayant une conscience différente, il perçoit en fonction de cette dernière les reflets qu'il nomme matière.
Chers amis, c'était une émission susceptible de nous ouvrir les yeux et contenant de nombreux exercices et aides qui nous permettent de regarder et d'entendre plus en profondeur. En mettant en pratique ces exercices, nous pouvons donc nous attendre à d'intéressantes découvertes sur nous-mêmes. Nous nous réjouirons de vous retrouver lors de notre prochaine émission pour continuer à apprendre ensemble. À cette occasion, il nous sera proposé de porter un regard tout à fait nouveau et plus profond sur la règle de vie bien connue « Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas subir aux autres ». En outre, nous prendrons connaissance des conséquences que peut avoir la curiosité et nous verrons comment Dieu, notre Père éternel, le grand amour universel, nous appelle à travers le Christ et nous reconduit dans notre patrie éternelle. Vous pouvez relire les passages d'aujourd'hui dans l'ouvrage intitulé « Les grands enseignements cosmiques de Jésus de Nazareth » à ses apôtres et disciples qui pouvaient les comprendre avec des explications de Gabriel. Nous vous souhaitons une bonne continuation, au revoir et à bientôt, une chaleureuse salutation en Dieu.